RMC.
PLM et tous les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ça va. On a le droit d'exister un petit peu ou pas?
Le Super Football Show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Oh mon Dieu, bordel de merde, que c'est bon! Pas vrai!
Nicolas Villas.
Oh, ravi d'être avec vous. Soyez les bienvenus dans l'After. C'est parti pour deux heures de folie avec ce soir avec nous Jérôme Rotten. Bonsoir Jérôme Rotten.
Salut Nico, salut à tous.
T'as fait tomber la veste en cuir ce soir.
Ah bah il faut changer.
La veste en cuir, c'est habillé pareil.
Non, mais juste j'y change de look.
C'était la pluie hier, la pluie. Donc je voulais pas mettre de veste, arriver trempé comme certains qui sont arrivés hier ici sur le plateau.
Tu penses à qui?
Bah celui qui était à ma droite hier.
C'est qui? Ah, Baptiste Caplin.
Voilà. Était
pour ne pas le citer.
Démonté.
Daniel Riolo également est avec nous. Sachez qu'il a passé une sale nuit, hein, Daniel Riolo.
Non, mais on n'est pas obligé de tout dire. Hein.
Non, mais moi je le dis, moi c'est important. Ça pourra peut-être expliquer certaines de tes interventions ce soir.
Ah, salut bon. Les amis, j'essaierai d'être comme d'habitude toujours impeccable.
Patrice Haddad, président du Red Star, est ce soir l'invité de l'After. Bonsoir Patrice, comment vas-tu?
Messieurs, bonsoir.
Ça va? Très bien. Ça fait plaisir de te recevoir.
Je suis ravi d'être là, j'adore.
J'ai mis un nœud pape aux couleurs du Red Star ce soir, je sais pas si t'as fait gaffe.
Ouais,
vert.
Il est un peu trop brillant pour être réellement Red Star.
Je sais pas. La petite étoile est un peu boîte de nuit, non?
Il y en a pas en fait. Mais j'attends que tu fasses des nœuds papes au Red Star.
Voilà une idée.
On n'est pas longtemps en match, je te le cache pas. Mais voilà. Bon, comment ça va Patrice? Le Red Star est de retour en Ligue 2. Bonne nouvelle.
Franchement, c'est un soulagement énorme. Hein. C'est quel plaisir de revenir dans l'élite, une partie de l'élite. Année difficile.
L'élite qui croque l'oseille. Parce qu'à maintenant, il faut y rester, parce que l'oseille des droits télé,
là, si tu veux croquer.
2021, faut y aller.
Ça
y est, on a une nouvelle feuille de route, c'est 2021.
Il faut que tu tiennes, parce que là, il y a un bout de gâteau à prendre.
Ah, c'est sûr, putain.
Regarde les étoiles dans les yeux, les yeux qui brillent.
C'est
ça
du Red Star.
Non. Mais oui, on va essayer de se comporter cette année, avec l'expérience de la première année de montée.
Est-ce que concrètement, dans ce gâteau, dont je parlais en rigolant, tu sais ce que ça change?
Ça change pas mal, hein.
Oui, mais combien t'as un chiffre? T'as fait un calcul?
Je crois que l'influence sur la Ligue 2 va être de 40 à 50 millions, quand même. À redistribuer.
Bah, ouais, quand même. Attends, non, parce que je crois qu'ils vont récupérer, en ce moment, c'est combien que la Ligue 2 récupère? Dans les 60?
Je crois qu'on récupère à peu près 10% de...
Parce que là,
des droits de la Ligue 1.
Dans le prochain mouvement, la Ligue 2 au total récupérera 110, je crois.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Ouais, donc, okay. Tu vois, c'est 10%.
C'est 10%.
Ouais. 10%. Très belle série, d'ailleurs.
Ah, non, mais ça, on a préféré détailler. Je suis un homme d'oseille, c'est moi. Chacun son truc, il reçoit de la tête, il y en a d'autres.
Ça t'empêche pas d'en avoir.
Non, bah après on fait ce qu'on peut.
Oui, c'est vrai, c'est sûr.
Ça va, ça vient.
Vous avez une idée d'où vous allez jouer la saison prochaine ou pas, Patrice?
Écoute,
il y a le projet du nouveau stade, c'est pour 2023, c'est ça?
C'est ça. Le projet du nouveau stade, ça fait 40 ans qu'il y a.
Ça y est, c'est signé là. Ça y est, c'est signé.
Laisse-moi, j'ai simplement 10 ans de travail là-dessus. Non, mais c'est vrai que en remontant cette année, on a un nouveau projet qui est celui de Boer. Ça, c'est définitif. C'est-à-dire qu'on sait que ça va être là-bas que ça va se faire. Mmh. Et on sait que le projet a du sens aujourd'hui économique, un sens économique. Maintenant, cette transition, faut qu'on la fasse quelque part. Et j'aspire à ce qu'on la fasse à Colombes. Parce que proximité, état d'esprit, etc., environnement, je pense que c'est ce qui
nous correspond. Le stade homologué là-bas, ouais?
Non, en train d'y, bon, tu vois, il y a un gros chantier sur lequel on est. Mais ça se profile plutôt pas mal. Maintenant, il faut l'accord politique, il faut pas mal de choses à additionner sur le fait que ça se fasse là-bas, mais on y travaille ardemment.
Qu'est-ce que c'est difficile quand même, hein, ces dossiers-là. Je te disais tout à l'heure avec l'émission démarre, j'ai eu l'occasion récemment de croiser deux, trois fois Pierre Ferracci, le président du Paris FC. Alors lui, maintenant, il va se retrouver à aller jouer, s'entraîner plutôt à Orly. Tellement il a zéro infrastructure là proche de Paris, proche de son siège. Enfin, on a l'impression qu'il déménage tout le temps. C'est vraiment SDF du foot, quoi. Et là, je lui ai dit pourquoi avec Patrice au lieu d'être Ajaccio et le Gazélec, là, vous essayez pas de vous rassembler. Et donc toi, tu veux pas?
Non, c'est pas que je veux pas, mais c'est que je pense pas que ce soit la solution. Je connais aucune fusion qui n'a fonctionné. Tu donnes-moi en une.
Non, mais là, c'est Paris.
Bah, le PSG, mais c'est, bon, c'est un autre temps, quoi.
C'est la même région. Ouais, le PSG, c'est une fusion.
Oui, enfin, c'est une fusion.
La plupart des clubs français sont des fusions.
C'est une
absorption,
c'est pas pareil.
Oui, fusion.
Si le PSG et le Red Star fusionnaient, ça marcherait.
Non, le PSG, bon, si.
C'est quoi? Parce qu'aucun des deux lâchera le nom.
Qu'est-ce que je vais additionner avec le PFC? Qu'est-ce qu'il va additionner avec moi? On n'a pas d'infrastructure tous les deux. Si au moins un des deux en avait une.
Donc toi, tu vas avoir Boer en 2023.
Je vais avoir Boer en 2023. Donc il y a un public à Boer, il y a un état d'esprit.
Son oseille et ton oseille, ça fait.
Non, je pense pas que ce soit une histoire d'oseille. Dans un premier temps, c'est de passer d'un projet qui, à un moment donné, était municipal à un projet privé. Donc le projet privé, il faut trouver du terrain, de l'espace, des moyens pour l'amener. Il m'a fallu 10 ans pour peut-être trouver la solution à Boer. L'autre, c'est les conditions de travail et d'entraînement. On est à Gennevilliers aujourd'hui, super bien, un lieu pratiquement exclusif, et on aspire à ce qu'il devienne parce qu'on va mettre l'association là-bas. Ça commence à se structurer, à voir, tu vois. Ouais, on sait travailler sur le contenu. Et on l'a démontré pendant 10 ans de travail, j'ai l'impression.
C'est ta 10e année au Red Star à la présidence.
10e année. Ouais. On faut travailler sur le contenant, qu'est-ce que je te dis? Mais maintenant, il y a peut-être une prise de conscience. Il y a besoin peut-être que cette prise de conscience, c'est le temps qui permet de l'avoir et de la prendre pour les collectivités, les municipalités, etc.
T'es déjà en train de préparer la saison, j'imagine, en recrutement, entraîneur, il se passe un truc?
Écoute, Régis doit,
j'ai le contrat.
Ouais.
Après, tu sais que c'est lui qui décidera s'il reste avec nous, mais il est sous contrat, donc il est avec nous.
Ça t'a plu, vous êtes bien entendu, parce qu'il
super.
A une personnalité particulière.
Il est sollicité, tu veux dire, c'est ça?
On entend beaucoup de choses, mais j'ai confiance en Régis, c'est dans la manière dont on a mis les choses en place. Donc, tu sais, c'est toujours un président qui dit qu'il a confiance en son en son entraîneur, mais est-ce qu'il a confiance en moi? Bon, voilà.
Enfin, souvent, quand un président dit ça, il s'en va l'entraîneur, très souvent.
Pardon?
Quand un président dit, je rassure mon coach, il le vire derrière.
Ouais, non. Mais attends, lui, c'est comme, moi, j'interviens là-dedans, parce que Régis, je le connais très bien, j'ai joué avec lui, au tout début, quand j'étais à Caen, et je l'ai régulièrement.
Il avait déjà les cheveux comme ça, la coupe et tout.
Ah,
genre,
toujours,
très bien mis, il fait
comment il arrivait à l'entraînement, Régis? Il devait faire la même chose au Red Star quand
il a joué.
Il y a joué.
Ouais.
Il arrivait en costume. Tous les joueurs à l'entraînement.
Costinha.
Il disait mais qui sont
les ministres.
Il dit attends c'est la grande classe. Il avait la classe. Hein.
Non il a.
Fais attention.
On a fait une saison extraordinaire avec lui parce que c'est difficile de descendre et de remonter tout de suite. Il récupère quand même un truc un peu dépressif qu'il faut remettre sur une dynamique positive. Je peux te dire qu'on a passé des moments difficiles. Hein. Mais on a réussi.
Petite info Ligue 2 au passage, l'un de tes anciens entraîneurs, Roy Almeida, était nommé à 3 aujourd'hui. Hein.
Ouais.
Voilà. Avec qui t'avais failli monter en Ligue 1 d'ailleurs.
C'était étonnant que elle t'échappe cette news là, toi.
Ouais, hein? Moi j'étais courant depuis quelques jours.
On se comprend. Hein.
Qu'est-ce que tu vas dire par là, Daniel?
Je sais pas, on se comprend. Quand tu peux, tu.
T'as vu ou pas? Ça te dit un petit joueur portugais au Red Star la saison prochaine? Non, t'es vacciné déjà. Ouais, voilà. Je sais.
Ouais. On a fait quelques tests, ouais.
Convaincu visiblement. Ouais. Sans paillot, tout ça, non?
Ouais, écoute, on a assez de joueurs autour de nous. Hein.
Allez, on va passer à la vie tranchée de Jérôme Roten.
T'adorais te faire courir. Hein. Oui, bien qu'on crache dessus. Hein.
Non, j'adorais donner de l'émotion.
Ouais, écoute, j'adorais.
Est-ce que tu t'en souviens de ton avis tranché, Jérôme?
Je crois qu'il est pas très frais. Hein. On aurait dû faire l'inverse. Hein, parce qu'il avait besoin d'être.
Non, mais bien sûr que je m'en souviens.
Attends, projection sur la saison prochaine.
Sa journée. Ligue 2, ça l'a perturbé là. Tu vois,
toute la journée depuis 8 heures, je suis debout.
Projection sur la saison prochaine, sur l'attaque du Paris Saint-Germain. Alors il y a pas mal de.
Au petit déj, t'as commencé à bosser sur le dossier.
Bien sûr. Surtout ce dossier là, je peux te dire.
Pas mal de rumeurs qui circulent du côté du Paris Saint-Germain. Mais toi, une attaque Mbappé, Cavani, Neymar, ça te va? Alors on parle de Lewandowski, d'Higuain, de Cristiano Ronaldo. Alors c'est la une de aujourd'hui d'ailleurs, le PSG qui ferait une offre de salaire de 45 millions d'euros, qui proposerait 150 millions d'euros pour faire venir Cristiano Ronaldo, sauf que bon, il y a le fair play financier, etc.
Ouais.
Mais toi, tu te dis, ce qu'il y a au PSG aujourd'hui, ça te convient?
Oui, parce qu'on entend beaucoup de choses. Alors c'est vrai, comme tu l'as dit, hein, on écoute, on lit des choses vraies, des choses
la plupart du temps, c'est très farfelu.
Non, mais après, quand ça vient du joueur, quand le joueur annonce qu'il veut partir, par exemple Lewandowski, il veut partir. Oui, mais bon, son agent, excuse-moi. Mais
ça a marché une fois avec Neymar quand même, non?
Pini Zahavi qui a fait le transfert, qui a contribué à monter le transfert de Neymar. C'est l'agent de Lewandowski, ouais.
Mais c'est pour ça que Lewandowski, certainement qu'il en a marre, c'est un grand mot parce qu'il est quand même au Bayern Munich, mais peut-être qu'il veut découvrir autre chose. Ronaldo, après ses déclarations, mais Ronaldo, c'est pas la première année qu'on l'entend au PSG et peut-être à Paris un jour. Il viendra jamais, dans tous les cas. Et ça serait pas une bonne idée par rapport à ce que le PSG a sous la main aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as quand même la chance d'avoir un des meilleurs joueurs du monde, Neymar, d'avoir Cavani, un des meilleurs buteurs à l'heure actuelle en Europe et au monde. Il l'a prouvé en battant ce fameux record d'Ibrahimovic sous les couleurs parisiennes. T'as Mbappé qui est quand même un attaquant aussi en devenir, qui a encore une marge de progression énorme, mais quand tu le vois, ne serait-ce jouer le dernier match avec l'équipe de France dans l'axe, dans un rôle où il a quasiment pas joué là, cette année où il jouait côté droit, il était cantonné côté droit.
où là je suis pas trop fan de le laisser là tout le temps, ça te donne quand même une possibilité énorme dans ces trois joueurs là. Thomas Tuchel va arriver avec plein d'idées novatrices.
Mais justement, c'est peut-être ses idées, non, ces joueurs là certains.
Et ben de quoi?
Bah je sais pas, par exemple peut-être que lui se dit un Lewandowski,
ce que je veux dire c'est que on parle souvent quelle est la priorité. Moi, je suis pas comme certains qui disent et je m'étais attrapé avec Lucie qui était venue
le Payen.
Voilà. Non, Lucie
Bacon.
Lucie Bacon qui était venue.
Il était pas là,
qui était venue là et qui disait la priorité c'est de prendre un joueur en sentinelle. Déjà, faut savoir comment l'entraîneur veut évoluer. T'es pas obligé de jouer avec un seul joueur devant la défense, tu peux jouer avec deux, c'est ce que j'avais dit. Donc les priorités, c'est déjà savoir comment Thomas Tuchel veut faire jouer l'équipe. Et je pense que je suis sûr qu'aujourd'hui, rien qu'offensivement, t'as pas besoin de toucher. T'as l'avantage d'avoir Cavani, donc lui qui est dans un rôle bien spécifique, c'est-à-dire le buteur, l'attaquant axial et tout ça, même si il a montré qu'il pouvait jouer sur les côtés, mais là il va jouer dans l'axe. Mbappé qui peut jouer autour de lui, donc c'est-à-dire que tu peux faire une attaque avec deux attaquants comme ça, un Mbappé un peu libre comme il a été en équipe de France aux côtés de Giroud, et puis un Neymar qui peut être sur le côté gauche, qui peut être aussi dans l'axe, avec un autre joueur côté droit, par contre qui sera peut-être une des priorités dans ces cas-là, d'un point de vue offensif, de prendre un joueur de côté pour avoir un quatuor exceptionnel devant. Ça, c'est une possibilité. Donc, pour moi, tous ces attaquants de pointe, tous ces attaquants vieillissants, attention, façon de parler pour Ronaldo, parce que c'est quand même le meilleur joueur du monde encore actuellement, je pense que le Paris Saint-Germain n'a pas besoin. Voilà, tout simplement. Donc arrêtez avec ces rumeurs.
Et le gardien, t'as parlé du gardien?
Ah non, mais par contre, ouais, après il y a d'autres priorités certainement. Moi, je pense pas.
Certains sont contents d'Areola.
Non, mais moi, je fais partie de cela. Ouais. Je pense que Areola a une marge de progression. Après, certains vont te dire.
Il va falloir qu'il se mette dans la marge.
Bon, arrête,
de progression.
Arrête, Daniel.
Comment s'il te plaît. Arrête quoi? Ah, il a pas besoin de progresser.
Mais il va.
Il a besoin de progresser ou pas?
Il a pas progressé cette année. Toi, qui l'année dernière, il y a un an, le traitait de passoire. Cette année, tu dis plus qu'il c'est une passoire quand même.
Il a progressé, je pense qu'il va encore franchir.
Donc c'est une progression.
Mais c'est ce
donc
que
c'est
je.
Bien.
Mais c'est.
Bon,
mais, tu vas encore être nerveux ce soir.
Mais c'est pas nerveux. C'est lui qui a pas dormi.
Et à un moment, faut songer au calme. Mais non, on te dit un truc.
Mais c'est toi. Je te dis la marge de progression.
Tu vas devoir progresser, Jérôme. Est-ce qu'il doit encore progresser?
J'ai posé juste une petite question.
C'est exactement ce que j'ai dit. Non, mais il y a des fois, je me demande si t'entends mes phrases. T'as un mec dans l'oreillette qui te dit autre chose ou comment ça se passe?
Reprends les choses comme elles sont passées. Parce qu'à chaque fois qu'il se mette pour la victime.
Tu me dis la marge de progression. Je t'ai dit, il faut qu'il s'y mette.
Ben, il faut
dans la progression, il faut qu'il continue quand même.
Hein? Il y est dans la progression.
J'aimerais que ce soit encore plus net.
Mais il y est.
Oui, je pense,
bon,
oui.
Bah merci. Voilà.
Mais faudrait que ce soit
un peu la même chose.
Non, mais exactement.
Tu progresses, on est d'accord.
Mais c'est une façon de
oui,
se
mais c'est vrai qu'il progresse plus. C'est ce que je te dis, mais comme il est en hypertension
non,
en ce moment,
j'ai... Arrête.
Mais tout ça, c'est à cause de Patrice. On était parti.
Moi, j'ai posé juste une petite question.
Tu nous balances les gardiens.
Mais tu viens, tu fais exprès d'énerver.
Non, Jean.
Non, Patrice, c'est un rituel.
Non, mais c'est vrai que cette question du gardien, c'est l'une des principales, non? Et on se demande s'ils ont le temps de laisser.
Principal peut-être plus arrière gauche et milieu de terrain que gardien. Mmh. Gardien ça vient en 3 pour moi.
Ah bon?
Toi tu dis gardien.
Ouais. Gardien c'est la priorité l'année dernière.
Mais arrière gauche il y en a pas.
Mais au niveau de l'impact psychologique sur une équipe, le gardien est fondamental.
Oui.
On le sait.
Oui, donc, ça c'est vrai.
Donc ce gardien, on sent qu'il est très très bon, qu'il progresse, etc. Mais est-ce que ça suffit pour être au top niveau de la Champions League ou pas?
Ouais.
C'est ça qui vise sur un championnat. Ça c'est sûr que.
Mais pour revenir à ce que disait Jérôme, toi ce trio offensif pour toi, ça suffit entre guillemets pour gagner la Champions?
Non mais on a toujours besoin d'excitation et on a l'impression que c'est presque médiatique tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu amènes un grand nom, ça fait le tour du monde, le tour de la planète, etc. C'est dur d'intégrer un joueur à ce niveau-là, tu vois, en plus. C'est-à-dire, ils ont fait une intégration de Neymar, de Mbappé et Cavani qui se retrouvent au milieu de tout ça. Ce trio-là, pour le faire fonctionner ensemble, il l'a démontré cette année, pourquoi tu vas le changer, quoi. Bon.
Daniel, ton avis là-dessus?
Non, la dernière phrase de Patrice est intéressante quand il dit ça peut être médiatique de faire venir un grand nom. Et le PSG a été habitué ces derniers temps, notamment lors du dernier mercato. Aujourd'hui, si tu dois, je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a, je pense, l'été dernier, c'était un mercato pour faire du bruit. Paris avait besoin à ce moment-là. Je crois que cette année, en plus. On attend la sanction du FBF qui pourrait encadrer. Hein. Je pense que ça va être plus de l'ajustement. Enfin, moi, si j'étais dirigeant du PSG, je verrais comme ça. Et quand tu dis grand nom, oui. Et la question, forcément, que ça m'incite à me poser, c'est aujourd'hui, quel numéro 9 ferait du bruit pour remplacer Cavani? J'arrive pas à voir.
Bah, c'est sûr que tu fais venir un Ronaldo, il fera du bruit, hein.
Oui, oui, non, moi je parle de neuf.
Après, ah oui, mais bon, il y a Lewandowski visiblement qui est sur le marché en plus aujourd'hui. Okay.
Est-ce que ça va faire vraiment du bruit?
Non, mais c'est même
ça.
Pas
c'est ça. Ma première question.
C'est de savoir juste Lewandowski est-il plus fort que Cavani?
Ça c'est ma deuxième question.
Il y a l'aspect médiatique dont parlait Patrice.
Est-ce que médiatiquement, parce qu'on sait que ça compte dans le business aujourd'hui.
Moi je pense que ça ferait du bruit, franchement Daniel.
Franchement, pas la place de Cavani. Mais pas la place de Cavani.
De faire partir Cavani pour le remplacer par Lewandowski, tu penses que c'est un bruit positif?
Pour moi, c'est pas un bruit positif.
Non, c'est du bruit.
C'est du bruit.
Non, non, mais il faut que ce soit positif. Ouais. Est-ce que, dites, aujourd'hui, un numéro 9 qui d'un coup va, médiatiquement faire un, ce que j'appelle le bruit positif.
Enfin, attends, en vrai 9 aujourd'hui, il y a quoi? T'as quoi, Higuain?
Bon, tu vas faire quoi?
T'as Suarez, ouais.
Suarez, il y a 2 ans, tu fais un gros pétard, mais pas là. Higuain. Bon, tu fais rien.
Firmino. Tu fais... Jérôme Thomas me dit Nolan Roux. C'est vrai qu'il a fait une grosse saison. C'est la meilleure saison.
Firmino.
C'est un neuf, ouais.
Salah.
Mais il joue neuf.
Salah, c'est pas un vrai neuf, mais pareil, c'est pour un mec de côté. Donc ça veut dire que tu remettrais, tu tenterais Mbappé en neuf pour faire Salah sur un côté. Là, tu ferais du bruit.
Ok. Ah bah là, oui.
Mais alors,
tu vires Cavani.
Ça occasionne. Voilà.
Tu fais du bruit.
Ça, c'est une
question. Non, mais je veux bien faire du bruit. Il y a pas de problème. Mais après, il faut prendre en compte ce que dégage cette équipe du PSG, ce qu'on a souvent dit. Le manque de caractère, le manque de ceci.
Je pense, et je reviens à ça.
Ton joueur emblématique. De ce côté-là, Cavani.
Et j'en reviens à ça, il y a un moment où tu fais un gros coup sur le mercato, il y a des étés, t'en fais moins. Ouais. Là, je pense qu'il y en aura moins. En plus, après, c'est donc la deuxième question que je voulais poser, c'est les fameux changements que t'apportes partout, faut aussi se méfier des changements qui sont faussement décisifs. Moi, je pense qu'il y a des mecs, là, avançant, toi, on peut les citer, ceux qu'on mettrait quand on va faire nos chapeaux, dans les chapeaux 1, le gratin des numéros 9, franchement, c'est plutôt interchangeable. Après, ce qui va compter. Prenons un exemple classique.
Mais est-ce qu'il y a des offres sur Cavani, par exemple? Est-ce que le monde du foot
Simone peut être botté, la Juve peut être intéressée, Ancelotti pourrait être tenté de le faire revenir à Naples. Après, est-ce qu'il peut lui payer son salaire qu'il a aujourd'hui? Je sais pas. Mais bon, comme il y a eu des tensions un peu dans le vestiaire, mais rien de dingue, mais bon. Ça pourrait être envisageable. Mais parlons plutôt de, un tel il est meilleur qu'un tel, un tel est meilleur qu'un tel. Bon, si on veut faire un truc schématique un peu bateau, oui, Cavani c'est meilleur que Nolan Roux. Maintenant, prenons un cas de figure plus compliqué.
Journaliste engagé.
Cavani est-il plus fort que Benzema?
Non mais
ça dépend comment tu joues.
Exactement.
Ça dépend ce que tu veux faire avec.
Ça revient.
Ça dépend ce que tu veux faire.
C'est pareil. C'est pas
du tout le même genre de profil.
Exactement.
Ça n'a rien à voir.
Exactement.
Donc tu peux pas réellement les comparer. Quelle équipe t'as envie de faire?
Après, attention, un numéro 9 aujourd'hui avec des joueurs comme Neymar et Mbappé à côté, t'es capable d'avoir un Firmino, d'avoir un Benzema qui viennent participer au jeu.
Exactement. Ça pourrait. Mais donc c'est comment tu fais. Et ça donc le dossier, faut qu'il arrive dans les mains de l'entraîneur et que l'entraîneur dise. Je mesure. On fait partir un mec emblématique qui est adoré par tout le monde, qui claque des buts, qui colle bien, mais dans le jeu que moi je veux mettre en place. C'est pas la question, je vais prendre un meilleur, je vais prendre un moins bon tout. Ça se vaut là, ces mecs là,
vous vous rendez compte quand même
comment tu joues et
comment le championnat français a évolué. Comment on pouvait parler de ce genre de joueur à l'époque,
c'est clair. On parle d'un club, mais
t'as vu à quel niveau ça nous amène quand même. Et c'est un régal de participer à ce genre d'émission parce que j'ai l'impression de faire partie de ce monde.
Mais tu fais partie de ce monde aujourd'hui.
Mais nous, c'est avantage avec Daniel, c'est que tous ceux qui sont invités comme ça,
Il y en a un autre qui va rejoindre cette bulle et ce monde, c'est Farid qui nous a appelé au 32-16. Salut Farid. Attends, si j'arrive à faire fonctionner le truc, bouge pas Farid.
Patrice, Jérôme.
Salut. Ça va Farid?
Ça va et vous?
Va bien. Alors qu'est-ce que tu penses de ce débat, toi, de l'avis tranché de Jérôme Bretagne? Est-ce que toi, cette attaque Mbappé, Neymar, Cavani, elle te convient pour le Paris Saint-Germain?
Je veux dire, Nico, vous avez tapé dans le mille parce que c'est un débat qui fait grand bruit chez les supporters du PSG. C'est un débat même qui a déchaîné un peu les passions parce que les mecs vont jusqu'à s'insulter par rapport à ça. Il y en a en fait qui demandent un numéro 9, vraiment un peu plus joueur du type Firmino, même Lewandowski, voire même Benzema. Après moi, sur l'avis de Jérôme, pour moi c'est pas vraiment la priorité, parce que moi peu importe le numéro 9, pour moi ça va être le système qui va être mis en place par Tourelle et les connexions qui vont être établies qui vont faire la différence. Si on n'a toujours pas de plan de jeu établi, tu peux mettre n'importe quel numéro 9, on va continuer à chercher offensivement des combinaisons inexistantes, des combinaisons toutes pourries, et ça marchera pas. Alors que même avec un Cavani, moi si le nouveau coach met un système en place et force les joueurs offensivement à la trouver des chemins d'attaque, des combinaisons intéressantes pour mettre en valeur Cavani, Mbappé et Neymar, ça peut marcher. Après, moi, je pense qu'il y a vraiment, vraiment d'autres priorités dans cette équipe pour l'instant que vraiment de s'occuper, de se dire, voilà, il nous faut absolument un numéro 9 cet été. On
peut et puis un 9, ça coûte très cher et le PSG risque d'avoir des soucis pour recruter.
Exactement.
Voilà, exactement. Pour moi, vraiment, l'important cet été, ce qui va être fait, c'est vraiment ce que Tourelle va mettre en place et vraiment essayer de trouver vraiment autre chose offensivement entre les trois que ce qu'on a vu ces deux dernières saisons.
Ouais,
parce
exactement.
Que c'était vraiment, vraiment dégueulasse. Et peu importe le profil du neuf, hein, ça va vraiment être une question de bonne volonté, de relations techniques, voire tactiques avec le milieu de terrain, pour vraiment faire quelque chose d'intéressant offensivement. Le numéro 9, je pense que ça peut attendre si on veut en changer de cycle avec Cavani, ça peut être tout à fait normal et naturel. Je pense qu'on peut attendre l'année prochaine. Il y a d'autres priorités, notamment les latéraux, un bon 6, voire un gardien, plutôt que de se concentrer sur un 9 qui va coûter énormément en salaire et en prix dans un contexte du fair play financier qui, je pense, va être un peu tendu cet été.
Merci Farid de nous avoir appelé en tout cas.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Bon débat, on est tous d'accord. Et là, moi, je dis bravo, Jérôme.
Mais
parce que cet homme fédère.
C'est vrai.
Voilà. Il est là. C'est un rassembleur. Cet homme-là aurait dû faire de la politique.
Ah, non. Laisse-moi dans le foot.
Attends, la route est longue. Hein.
Voilà. Allez, tu prends une petite ville, là, devant chez toi, Châtenay-Malabry, le Chênay, Plessis-Robinson.
Ah, c'est pas dégueulasse.
Tu files à la mairie, t'essayes de.
Chênay, Plessis-Robinson, c'est vachement à côté, en plus.
C'est où, toi?
Le mec, il connaît très bien l'île de France, quoi. N'importe quoi. Moi, je suis à Meudon.
À quoi? C'est 78-92, on a l'impression que j'ai dit Marseille et Lille.
Le Chênay.
Le Chênay, le Plessis. 78-92, c'est deux départements qui se touchent.
Moi, je pense que ça... Les Yvelines, c'est grand, quand même.
Mais j'ai eu l'impression, il m'a dit. Mais non, mais c'est parce que tu connais bien ces villes, pardon.
À Vitre en Chênay, ça, c'est un sujet.
Je connais très bien le Chênay, n'importe quoi. Tu sais que tu me sors.
Mais je crois que t'étais né là-bas. T'es pas né là?
Ça va
pas. Eh ben, excuse-moi.
Mais t'habitais où quand tu joues au PSG? Mais t'habitais où quand tu joues au PSG, Jérôme?
Pardon de m'être trompé sur ton lieu de résidence.
Où est-ce que t'habitais?
Et moi. C'est moi et Atem Ben Arfa.
T'habitais où quand tu joues au PSG?
Quand j'habite dans le château de Meudon.
Ah, t'étais à Meudon, quoi?
Ouais, le château, là. Non, je plaisante. J'habitais au départ, dans le 78.
Voilà, après du Chênay. Et après, il va me faire chier que le Chênay.
Non, rien à voir avec le Chênay. C'est pas loin, ça a été dans le Val,
Saint-Germain. Oui,
c'est à côté. Et après,
j'ai vraiment dit une connerie.
Et après, juste derrière. Bâtiment.
Bah, moi, je dis qu'une petite ville comme ça, pour toi, c'est du gâteau à conquérir.
Ah, mais c'est pour ça que je veux pas, c'est trop facile.
Pour conclure ton débat, Jérôme, petite déclaration de Noël Le Graët aujourd'hui à l'AFP concernant Neymar. Vous savez qu'il y a pas mal de rumeurs qui annoncent un départ, ça va énerver Daniel. On a besoin de cette image, c'est un super footballeur, il a un contrat de 5 ans, il doit rester. Le PSG montre qu'il peut attirer les grands. Dans quelques instants, la vie tranchée de Daniel Riolo. On va parler des droits de télé, tiens, justement. Patrice, on aura ton avis également là-dessus. Il y a des milliards qui vont tomber sur la Ligue 1, qui vont pleuvoir sur notre
ligne
à partir de 2020.
Non, pas des milliards. Un milliard.
Bah non, des milliards.
Et des brouettes à côté.
Un milliard sur des 4 ans. Sur 4 ans, ça fait presque 6 milliards.
Ouais, c'est vrai, c'est des milliards.
Alors, si on cumule, t'es vraiment nul en maths, t'es pire que moi. Allez, à tout de suite pour la suite de la
fête. Bravo, Nico.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Et avec vous au 32-16 et sur le hashtag RMC Live, bien entendu, avec Daniel Riolo, Jérôme Roten et Patrice Haddad, président du Red Star, qui est l'invité de l'after ce soir. Tiens. Petite dédicace pour toi sur le hashtag RMC Live, Patrice, le président Patrice Haddad dans l'after, aussi lucide et mesuré dans ses propos. Un dirigeant atypique dans notre football, mais il est sceptique pour la question de Bauer, Victor. Alors ça, c'est vraiment la question épineuse au Red Star. Moi qui commentais le National là-bas, c'était toujours le Red Star, c'est à Bauer. C'est difficile ça.
Voilà, c'est le refrain, mais c'est un refrain juste. Et je t'assure que je me suis fait donner une mission, c'est de réussir ce projet, parce que c'est le seul qui peut donner une pérennité au Red Star. Et je me concentre que là-dessus pour quitter, si je dois quitter la présidence, c'est une fois que ça sera fait.
Et petite précision également sur le hashtag RMC Live qui te concerne toi, Jérôme. Désolé, mais Ben Arfa est né à Clamart et non à Châtenay-Malabry, même s'il a grandi là-bas.
Non, il a grandi à Châtenay. Ouais. Voilà, c'est vrai.
Précision géographique, hein, c'est important.
Bah, c'est pour ça d'ailleurs que Ben Arfa était juste en dessous de toi au niveau.
Exactement. En fait, moi, j'ai juste été de passage. Je suis né, mais je suis parti.
Voilà, c'est ça.
J'ai laissé la place au. Bon, c'est un bon petit joueur. Hein.
Allez, la vie tranchée.
Et d'ailleurs, c'est quand même.
Il est venu à Boer, monsieur. Il est venu sur la dernière à Boer.
Bien sûr, exact.
Alou Diarra, Ben Arfa sont venus nous soutenir. Extraordinaire. Fallait voir la popularité, mais c'est un.
Ouais, ouais.
C'est extraordinaire. Les mômes autour de Ben Arfa.
Mais d'ailleurs,
tu vas voir cette année quand je vais venir. Tu vas voir la popularité.
Mais d'ailleurs, c'est quand même assez incroyable, c'est que on a toujours pas le début de la moitié d'une rumeur sur Ben Arfa dans ce mercato.
Bah, il y a Baptiste Le Caplain qui voulait l'envoyer à Bordeaux hier, mais.
Oui, il aimerait bien l'emmener, il aimerait bien, oui.
Je pense qu'il a beaucoup.
Baptiste, en tant que conseiller, officieux.
Il n'y a pas de rumeur, à mon avis, il a beaucoup d'offres.
Oui, mais généralement, ça parle beaucoup de Ben Arfa. Ouais. Là, ça parle pas.
Ouais, mais.
Non, mais Baptiste, il va y arriver à Bordeaux. Il va voir son ami le banquier. Il va lui dire, écoute, au vu un PEL ici.
Tiens, information de dernière minute que vient de me souffler Jérôme Thomas également. Kevin Malcuit est né à Châtenay-Malabry.
Ça, on va le savoir.
Kevin Malcuit.
On va voir tous les habitants.
Je
hein.
connais pas Kevin Malcuit, c'est qui celui-là?
Oh, le boulard, sans déconner.
Bah, le mec de Lille, l'arrière droit.
Avec la touffe, là.
Ah oui, c'est vrai.
Oh. Allez, on passe à la vie tranchée, Daniel Riolo.
Oui, mais nous, on n'est pas journalistes, Samira, nous. Enfin, on n'est pas supporters, je veux dire.
J'ai jamais une petite bourde, là. Ah, j'avais oublié celui-là, il est merveilleux. L'info est tombée hier, 5 des 7 lots des droits télé de la Ligue 1 pour la période 2020-2024 ont été vendus hier pour un montant record de 1,153 milliards d'euros par an. Et pour toi Daniel, les clubs français n'auront maintenant plus d'excuses.
Ouais, on va clore le chapitre oseille parce qu'on en a beaucoup parlé depuis, j'allais dire 48 heures, non, plus 24.
Ouais, c'était
bon,
exactement,
c'est
tombé à peu près à cette heure-là.
Comment on pourra remettre ça demain, là. oui, donc j'ai vu en tout cas aujourd'hui la réaction de la plupart des présidents, qui très logiquement sont très contents. Ils ont écarté mine de rien le partenaire historique qu'ils avaient, les dirigeants du football français, protégé pendant de très nombreuses années. Même le milieu politique avait protégé ce partenaire pendant de très nombreuses années. La logique pur business a prévalu dans le deal, et Didier Quillot avait averti tout le monde, il n'a pris personne en traître. Il a eu ce aussi pourquoi il avait été nommé, c'est-à-dire réussir une très belle négociation, et ce qu'il a fait. Donc la Ligue de ce côté-là a parfaitement réussi sa mission, et donc aujourd'hui, je répète, j'ai entendu les présidents réagir, tous très heureux, même ceux qui, Jean-Michel Aulas, doutaient qu'il y ait une augmentation substantielle des droits télé quand on en avait parlé ensemble. Bertrand Desplat, Bernard Cayasso qui était chez Dugas tout à l'heure, enfin tous très logiquement contents, parce que maintenant, la France se situe au niveau des tout meilleurs en termes de revenus liés à ses droits télé. Il y a plein de domaines dans lesquels ils devront encore progresser. Marketing, remplissage, ce genre de choses-là. Mais en tout cas, là, vraiment, ce qu'on attendait depuis des années est enfin arrivé. Et moi, ce que j'attends en retour maintenant, c'est comme pendant des années, ça a servi d'excuse. C'était les fameuses chouineries de nos présidents. Eh, on n'a pas l'argent, ouin, ouin, on n'a pas assez d'argent, ouin, ouin. Les autres, ils ont plus, même quand c'était faux. Parce que, je me souviens, j'avais fait la liste, et la liste, je l'ai faite en plus dans mon dernier bouquin, là, l'autopsie du sport français. Quand on fait la liste de tous les clubs largement moins bien lotis en termes d'oseille qu'ont sorti des clubs français en Coupe d'Europe, ça foutait les jetons. Donc là, maintenant, déjà là, je trouvais que les excuses, elles étaient souvent fallacieuses. Là, je dis vraiment maintenant, alors... L'argent, il va pas rentrer tout de suite. Patrice, on est d'accord, il va falloir un peu de temps avant que ça rentre. Là, tu peux un peu anticiper éventuellement quelques dépenses. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont se risquer à...
Mais tu peux l'utiliser comme garantie auprès des banques, par exemple.
Non, mais moi, je voudrais juste faire le petit calcul, en fait, parce que, bon, au-delà de... Il y a eu une petite révolution dans la Ligue, à un moment donné, il y avait ça à bouger, etc. Donc, le travail qui a été la mission qui était un des chantiers de la Ligue d'améliorer le niveau a été atteint. Donc ça, c'est quand même cette reconstruction de la Ligue et tout, avec un point de vue plus marketing, a atteint ses objectifs. Mais c'est à peu près 400 millions qu'il y a de plus par an par rapport aux droits précédents. 400 millions sur 20 clubs, on va enlever la Ligue 2. 400 millions sur 20 clubs, ça fait 20 millions par club. C'est ça?
Ah, tu me demandes des calculs, moi je suis obligé de faire oui avec la tête.
C'est ça, oui, 20 millions par club.
Oui, c'est ça, parce qu'on était à 800, donc, un peu moins de 800, et tu passes à 1 milliard 100 et quelques.
Je sais même pas si ça fait un joueur.
20 millions.
Deux joueurs, trois joueurs. Mais tu vois, à l'échelle du Parisien.
Oui, mais à l'échelle européenne, t'es l'équivalent des plus grands championnats. T'es un peu en dessous de l'Angleterre, on va dire.
Tu t'es quand même, tu te rapproches des meilleurs, t'es juste derrière l'Angleterre, c'est
T'es pas juste derrière l'Angleterre.
Bah, l'Angleterre, ça va
loin
baisser,
Je voulais dire, t'es derrière l'Angleterre.
Ouais. Non, mais ça va baisser l'Angleterre. Il y a des droits qui ont été signés, ça a été renégocié à la baisse.
Donc, faut aussi mesurer, c'est-à-dire qu'on était, très en retard. Non, et ça nous met juste un peu au niveau. Tu vois, ça va pas révolutionner quand même les moyens.
Ça te permet de garder quand même beaucoup de jeunes qui se barraient très vite. Ça te permet de beaucoup bosser sur tes infrastructures au niveau centre de formation.
Mais ça va pas être, d'après moi, un transfert direct sur les acquisitions de gros joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a, y a pas assez d'argent par club pour le faire. Donc, effectivement, ça va renforcer les clubs au niveau des infrastructures, au niveau des structures, au niveau des jeunes.
Tu vas pouvoir augmenter peut-être ta masse salariale. Ce qui peut te permettre,
business,
sur des joueurs.
Business au niveau du football, c'est-à-dire marketing, communication, etc.
Bon, on va quand même dire que c'est positif, pardon.
C'est positif.
T'as l'impression, qu'il y a que dalle qui est rentré, là.
Mais n'attendons pas une révolution.
Ouais, c'est vrai, pas de la révolution.
Tu vois ce que je veux dire?
Une révolution,
c'est quand tu as 10 ans derrière toi avec 1,1 milliard que tu peux commencer à capitaliser sur les moyens que tu as pour les développer.
Alors.
Donc les deux premières années ou la première année, ça va pas faire une révolution non plus.
J'en viens à ça. L'oseille va rentrer donc 2020. Effectivement, l'idée, c'est de garder ce taux-là, enfin ce montant-là sur plusieurs années. Là, ça va être pour 4 ans. L'idée, c'est évidemment pas qu'en 2024, tout s'écroule et qu'on revienne à des montants inférieurs. Et c'est pour ça que je dis cette mentalité de la chouine qu'on a trop eu longtemps, soit de pas être bon en Coupe d'Europe, en chouinant sur on n'a pas assez d'argent pour rivaliser. En gros, que cette dynamique, parce que l'économie c'est aussi une affaire de confiance, et tu le sais.
Oui, une dynamique positive.
Exactement. Que cette dynamique positive, elle te permette d'avoir des argent, de l'argent plus, sans que ce soit une révolution, mais toi-même de te sentir mieux dans ton économie.
C'est vrai.
De, en gros, ne plus te chercher d'excuses avant même de disputer le match. En gros, de continuer, mine de rien, ce qu'a fait l'OM cette année en allant en finale de l'Europa League, en disputant un calendrier très 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 compliqué, de finir rincé, mais de finir avec un nouvel engouement. Et ça participe aussi d'une économie qui redémarre. On reste avec quand même les deux demi de l'année d'avant. Donc, que tout ça continue d'entretenir cette dynamique positive pour que, dans ces quatre ans-là, d'abord, on continue à s'améliorer dans le jeu, dans nos ambitions, et qu'on arrive en 2024... avec l'idée qu'on doit rester à ce milliard-là. Mmh. Qu'en gros, maintenant que la machine, elle est lancée, qu'on ne s'arrête pas, et parce qu'on a eu pendant 10 ans, peut-être un peu plus, des réflexes tellement négatifs dans notre foot, là, quand tout, il chiale et tout, s'il se plaignait.
Tu veux dire en termes de réflexion, de l'ambiance,
en termes de communication, de la façon dont on présentait la Ligue 1, de, ça allait
mais
tout,
je sais
du choix de nos entraîneurs, tout, là, un nouveau souffle.
Non,
quoi.
Mais c'est vrai que de chialer, c'est pas de chialer sur le niveau d'investissement qu'on met sur la masse salariale joueur. On est à un certain niveau, on pourrait être plus fort, etc. Mais je crois que c'est la structuration de nos clubs qui compte. Et les moyens qu'on doit récupérer aujourd'hui, c'est pour développer du marketing, pour récupérer de l'investissement sur la com, pour se faire voir plus à la lumière de ce que doit être le football français.
Ouais.
Donc si c'est réparti directement sur la masse salariale joueur, t'as rien gagné.
Ouais, c'est
donc
vrai,
il faut que ça soit une répartition qui soit dans les structures des clubs. Et ça va être de l'argent concret et utile.
Tiens, juste pour être très précis, pour la Première Ligue, pour la période 2019-2022, c'est bien 2,3 milliards d'euros par saison. Voilà, qui ont été négociés. Ouais, c'était ça. Non, mais juste pour être très précis.
Oui, ça reste largement supérieur. Bien d'accord. Bien sûr.
Pour le coup,
c'est le double.
Oui. Ton avis, toi, là-dessus, Jérôme, justement. Est-ce que tu penses, comme Daniel, que ça y est, les clubs français ont plus d'excuses maintenant?
Non, mais
c'est même pas tant pas d'excuses. C'est
arrêter de se plaindre.
C'est changer la mentalité. Voilà, être positif
là-dessus, voilà, changer la mentalité, changer. C'est vrai qu'on entend, on entend beaucoup de choses avant les saisons, tu vois, où déjà ils se protègent plus ou moins, savoir si le nombre de matchs, les compétitions, ça va pas user les joueurs, on en a pas assez, on a ceci. C'est vrai qu'aujourd'hui, t'as rien à dire par rapport à d'autres équipes européennes. Ce que je veux dire, je te parle pas des Anglais, mais des autres. On est bien à ce niveau-là pour pouvoir développer. Tes joueurs, en avoir peut-être un petit peu plus,
donner. Garder, éviter garder, les vendre aussi. Les 20 millions, oui, mais les 20 millions, ça peut être ça.
Là, je rejoins Patrice, ça va pas être non plus une révolution, parce que c'est vrai que 20 millions d'euros pour, je te parle pas pour une équipe qui va monter de Ligue 2 en Ligue 1, où l'objectif va être de se maintenir, ça va être très utile. Mais pour une équipe, genre aujourd'hui, Bordeaux, par exemple, je vois pas vraiment si ça va pas être une révolution dans
pour les Big Five, non.
Eh oui, exactement.
Les structures de club. Exactement. Pour le milieu de tableau, beaucoup, et pour ceux qui montent, énorme.
Mais Daniel, tu sais ce que vont dire pas mal de présidents de club aussi. Ils vont dire oui, mais on a toujours une fiscalité qui est plus lourde que celle de pas mal d'autres pays européens. Tu vois, il y a ça aussi. Ils vont dire oui, mais nous, on n'est pas propriétaires de nos stades pour la plupart.
Écoute, ne les encourage pas à continuer dans les chouineries. Je pense qu'en ce moment, tout le monde est à la fête et tout le monde est au champagne.
Et puis, c'est bien
continuons
normal.
À entretenir cette dynamique positive. Effectivement, Patrice a eu raison de préciser que l'idée, c'est pas d'aller tout claquer dans les salaires, parce que là, effectivement, tu progresseras pas forcément. Peut-être que ça te permettra de garder un ou deux joueurs.
Au contraire, parce que
une année plus et
le fait de tout mettre, tout craquer dans les salaires, comme tu dis.
Oui, tu brûles un peu le truc.
Mais non, mais déjà, c'est tu vas valoriser, du moins, tu vas augmenter des joueurs moyens.
L'inflation sera mal placée. C'est pas cette inflation-là qu'il faut.
Oui, non, mais là, c'est une erreur. J'aurais pas dû parler de ce point-là précis.
J'ai souvent raison, t'as vu?
Ouais, ça, t'es bien, t'es en forme. T'as commencé un peu nerveux, quand même.
Non, mais non, c'est toi. Je peux t'arriver un petit peu. Tu me cherches.
Tiens, suite de notre quête des personnes qui sont nées à Châtenay-Malabry. Ah. Bah, tu vois.
T'as lancé un
Alan Saint-Maximin, bon joueur en plus.
Mais excuse-moi, mais qui te file tous ces trucs-là?
Jérôme Thomas, écoute,
on travaille sur le hashtag Malabry, quoi.
Sur le hashtag RMC Live, nos afteriens sont
déjà ceux qui...
Saint-Maximin, c'est pas mal. Moi,
ben oui. Saint-Maximin, c'est très bien.
C'est dingue, là, quand même, déjà, dans une ville comme ça, il y a autant de footeux qui sont nés.
Tu vas peut-être faire une équipe, moi à gauche, Saint-Maximin à droite.
Tu sais que moi, dans ma ville de naissance, t'as qu'un seul joueur de foot.
T'es né où, toi, d'ailleurs?
Rissorangis. Il y a un seul joueur de foot. Philippe Cuervo, pour ceux qui s'en souviennent.
Ah, Saint-Etienne.
Exactement.
Oui, bien sûr.
C'est le seul. Après, sinon, il y a Cadmerade.
Ça te va bien.
Pas mal. Dans mon immeuble, tiens, il habite.
Ah oui, ouais. Très bien. Bah, tu lui diras qu'on est né au même endroit. On était dans le même collège. Il avait un an de plus.
Ramène-le le prochain. Voilà.
Et qui a eu d'autres en vedette, Harris?
C'est pour ça que t'as les.
Ah oui,
ouais. Bon. Attends, je vais sur la page Wiki voir si t'es dedans. Ils t'ont mis dans la page Wikipédia ou pas quand même?
Oh, je pense quand même.
Attends, fais voir.
Je crois qu'il y a Sophia Aram aussi, mais ça, je suis pas sûr de vouloir m'en vanter.
Wikipédia. Ils ont mis.
Bah oui.
Mehdi Benassia.
Ah.
Et Nelton. Ouais, ouais.
Harris.
Ah ouais.
Sans déconner.
Je te jure que c'est vrai. Mehdi Benassia est né.
Alors que... Oh, putain, ça va nous réconcilier.
Ah bah, ouais, l'appel est lancé, en tout cas.
Je suis pas sûr.
Daniel Riolo, tu es sur la fiche Wiki quand même.
Je suis pas sûr que ça va te réconcilier avec.
Ça suffit pas. Si je lui dis qu'on est Harris tous les deux aussi.
Non, je pense pas.
Mehdi Benassia, je te lance un appel. Maintenant que je sais qu'on est né dans la même ville, il faut qu'on se rapproche. Oublions nos différends. Enfin, le différent que toi t'as avec moi, parce que moi j'en ai aucun avec lui, mine de rien. Parce que j'ai dit que le Maroc prendrait 3-0 contre l'Espagne à la Coupe du Monde, il m'en veut à mort.
Alors il est pas né là-bas, il a grandi là-bas, il a joué là-bas. Mais c'est comme Jérôme avec Ben Arfa, ça marche.
Il a porté le maillot jaune. Il a porté le maillot jaune, short bleu.
Courcouronnes, c'est pas Rudy Garcia qui est né là-bas aussi.
Courcouronnes, rien à voir, c'est à côté, c'est une petite ville à côté.
Mais il a joué là-bas visiblement.
Ah oui, il a porté le maillot jaune, short bleu.
Vous connaissez le gentilé de Rissorangis?
Ah ouais.
Le quoi?
Le gentilé, les gens de Rissorangis sont les.
Mais les Rissois.
Voilà.
Tu demandes ça à moi, j'ai grandi là-bas.
Dis-le-nous.
Voilà. Oui. Et donc voilà. Voilà. Donc non, il n'est pas né.
Et puis Jordan Olivier aussi est né à Rissorangis, c'est notre stagiaire. On vous attend au 32-16 sur l'hashtag RMC Live.
Habib Bamogo aussi. Ah, tu viens de Bamogo?
Oui. Marseille, Nice.
C'est ouf le nombre de mecs qui sont nés là-bas.
Mais tu vois qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sortent de là.
De cette région. Ah, mais de la région parisienne, c'est quasi 70%.
Moi, le doyen, tu vois. J'ai montré la voie.
Le mouvement.
Dans quelques instants, on aura l'avis tranché de Patrice Haddad et qui concerne le métier de sélectionneur. On vous attend sur le hashtag RMC Live et au 32-16, bien entendu. A tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Jérôme Roten, avec Daniel Riolo et Patrice Haddad, président du Red Star, qui est notre invité ce soir. Tout va bien, messieurs?
Impeccable.
Patrice, il se régale.
T'as des galères en ce moment, toi, non, Jérôme? T'as des galères en ce moment?
Non, pas du tout. Je suis en pleine forme, regarde.
T'es à Roland-Garros quand t'es ici. T'as Riolo Roten, quoi.
T'imagines quand t'es arbitre? Je peux t'annoncer, des fois, elles font souvent faute, mais pour se faire entendre, c'est pas ça. Silence, s'il vous plaît.
Patrice, tu vas à Roland?
Ouais, j'y vais la semaine prochaine.
D'accord.
Ah, tu y seras, non? Vous y serez, non?
Tu veux pas voir les Français, en fait, toi?
C'est ça. Peut-être lundi. Lundi,
je crois.
Le
5, j'y vais vendredi.
Ah, j'ai le 6, moi.
J'y vais vendredi.
Non, vendredi,
le 9, j'y serai.
Il fait le tournoi.
Non, samedi,
Il fait le tournoi des légendes. Regarde les sourires, regarde.
Ah, la semaine d'après?
Eh oui.
Ah, non, cette année, je ne peux faire que le... Non, j'y suis, mais seulement dans le double mixte. Ils veulent pas.
C'est une déception.
Bah ouais, mais finalement ils ont changé de tableau et tout. J'ai pas bien compris.
Ah, mince.
Bon, on va faire le double mix, hein, tant pis.
Patrice, tu es venu dans l'after ce soir, oui. Tu es venu avec un avis tranché également, alors qui concerne le métier de sélectionneur. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron, le président de la République, qui était l'invité de Rudolf Krief sur BFM TV, déclarait « Les deux métiers les plus difficiles sont certainement président de la République et sélectionneur ». Et toi, tu es assez d'accord avec ça, justement?
Enfin, pas avec celui de président de la République.
Bon, président du Restart et sélectionneur, ça te va ou pas?
Oui, ça va. Président de club, c'est plus difficile, je pense. Écoute, on m'a prévenu à 18h sur ce, 19h sur cet avis tranché, donc.
On est sur ce sujet. On croisé au téléphone avec Jérôme Thomas.
Oui, exactement. Ouais. Mais, non, mais bien sûr. Il m'appelle depuis 8h ce matin.
Voilà.
Non, mais parce que je trouve le sujet, intéressant, puisqu'on est en plein dedans, que le couperet va commencer à tomber, qu'il y a eu 6 ans de travail pratiquement pour aller faire 8 matchs qui vont être fatidiques. Où tu ne peux maîtriser aucun fait de jeu, où tu les subis, où tu peux te prendre la plus grande honte de ta vie parce que tu perds contre une équipe nettement inférieure que toi, que tu as un nouveau joueur aussi sélectionneur aujourd'hui, parce que les réseaux sociaux, c'est quand même un truc nouveau qui arrive, les médias, c'est-à-dire un Rabiot, il a plus d'écoute aujourd'hui que ce que pourrait dire un Deschamps ou par rapport à un sujet comme ça. Il a toutes les ressources pour expliquer son point de vue. Donc il y avait une omerta à un moment donné autour du sélectionneur, autour de la sélection, autour de tout ça, qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis, on est tous des sélectionneurs de l'équipe de France, quoi. C'est-à-dire que chacun a son avis, chacun a son point de vue. Et si tu ne vas pas au bout de tes choix, si tu ne gardes pas la ligne droite sans bouger à droite ni à gauche en restant bien dans tes rails, tu risques d'être influencé sur des choix que tu n'as pas toi voulu, et ça tu le payes cash. Donc on ne comprendra les choix de Deschamps que à la dernière minute du dernier match.
Alors c'est quoi que tu déplores, quoi, derrière ça, la prise de position de certains médias, je sais pas, des consultants par exemple, ou même de certaines personnes sur les réseaux sociaux, puisque tu fais aussi allusion à ça?
Ben, tu ne peux pas prendre une décision sans qu'il y ait des commentaires dans tous les sens. Donc je veux dire, faut l'encaisser, ça, comme ça. Tu vois, je veux dire que quand t'es un entraîneur d'une équipe, tu as 38 matchs pour démontrer ton jeu, ton fond de jeu, etc. Combien de temps t'as une équipe de France avec toi sur 6 ans, en temps, minutes, passées, jouées, etc. C'est quand même, tu vois, c'est un travail, je pense, où il faut avoir un mental de fer et des nerfs d'acier. Et en gardant tes convictions jusqu'au bout, tout en acceptant des faits de jeu. Je veux dire, est-ce que Domenech, le coup de boule, pas le coup de boule, etc., c'est différent? Est-ce qu'Alou Diarra, à la place de Vieira à l'époque, qui aurait pu dire que s'il n'y a pas eu de coup de boule, il n'aurait pas gagné? Enfin bon, à un moment donné, t'as perdu, et tout ce que tu as fait est raté. On a vu l'Euro. Tu perds contre un choix tactique de faire entrer Eder contre. Est-ce que toi tu en as eu un choix tactique ou pas? Tu peux être analysé sur des.
Bah tu tapes le poteau avant. Enfin bon, il y a plein de choses.
Mmh. Donc voilà sur quoi ça tient. Je pense que c'est un métier à ce niveau-là l'un des plus difficiles parce qu'il est dans un temps très
limité,
très exposé dans un sujet qui est un sujet live. C'est-à-dire, tu vois, un réalisateur, nommé d'autres métiers, journaliste, etc., on écrit les choses. Le football, t'essayes de les écrire, mais tu ne sais pas après ce que cette écriture va se transformer dans le scénario derrière, qu'est-ce qui va se passer sur le terrain. Donc je pense que il faut avoir énormément de force mentale pour faire ce métier.
C'est une belle image en tout cas. Jérôme, toi qui passes tes diplômes d'entraîneur, ça te fait pas un peu flipper ça justement aussi, ce côté hyper médiatique? Déjà, est-ce que tu envisages toi d'entraîner au haut niveau et à t'exposer à ça, à ce genre de critiques?
Sans parler de moi ou des entraîneurs, parce que Patrice il a bien dissocié les deux. Ce que je veux dire, t'as le rôle du sélectionneur, le métier de sélectionneur et le métier d'entraîneur qui a un rôle totalement différent. Et moi là-dessus j'avais Didier Deschamps à l'époque à Monaco, souvent il y avait une bonne ambiance entre nous, souvent tu vois tu peux chambrer Didier, il nous chambrait tellement que voilà, en retour, et on lui disait mais toi avec tout ce que t'as gagné, tout ce que tu représentes, le capitaine de l'équipe 98, championne du monde, t'es obligé de finir sélectionneur de l'équipe de France. Et il nous disait mais les gars, n'y pensez pas une seule seconde, je commence mon métier d'entraîneur, sélectionneur, c'est pas la même chose, c'est pas le même métier. Donc, il savait déjà. ce qu'il allait endurer en tant que sélectionneur et surtout l'expérience qu'il a pu acquérir en tant qu'entraîneur. Et c'est pour ça qu'il a mis le temps, parce que Monaco, après la Juve, après Marseille, et une fois qu'il a gagné, parce qu'il a gagné partout où il est passé, et ben il est devenu sélectionneur de l'équipe de France dans une situation qui était pas facile, même si elle était un tout petit peu plus simple que Laurent Blanc quand il l'a récupéré après Domenech.
Et puis il y a ce petit miaou qui traîne autour de lui, quoi.
Oui. Oui. Donc non mais c'est ce que je veux dire, c'est que le rôle de sélectionneur et Patrice encore il l'a bien dit, c'est que quand tu participes à des rassemblements, je te parle pas des grandes compétitions où t'as le temps, parce que là il a quasiment un mois de préparation avant, où là t'as l'occasion de créer quelque chose, une alchimie dans le groupe et tout ça. Mais quand t'es dans des matchs des matchs amicaux, quand il y en a qu'un, c'est 3 jours de rassemblement. Quand il y en a deux, c'est, allez, 8-9 jours, grand max.
Et quand aujourd'hui. Tu le perds?
Eh oui.
Ou quand tu fais match nul contre des équipes moyennes, tu remets tout en question. Exactement. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues?
C'est pas évident. Après, là, l'avantage par rapport à d'autres sélectionneurs qu'à Didier Deschamps, c'est qu'il y a quand même tout pour. Oui. C'est pas tapis rouge, mais presque. Ce que je veux dire, c'est que tout est mis en place pour que lui réussisse et vraiment totalement.
C'est une pression supplémentaire.
Ouais. Daniel, ton avis là-dessus?
Moi, je suis pas d'accord avec vous.
Écoute, ça tombe bien.
Parce que moi, je trouve que. Plutôt que de dire que c'est un métier difficile, je dirais que c'est un métier absolument passionnant. Que je pense que la plupart des gens aimeraient le faire, s'ils avaient les compétences pour le faire.
Ça peut aller ensemble, difficile et passionnant.
Ouais, mais alors dans ces cas-là, il y a un ordre dans les mots. Et je mettrais passionnant en premier. Je pense que tout le monde adorerait, puisque tu le dis toi-même et t'as raison, on est 60 millions de sélectionneurs, parce que c'est quelque chose qui est très prenant et qu'on s'y voit tous. On n'est pas tous capables, mais on s'y voit tous. Et que dans ce genre de métier très exposé, ta médaille en revers de la médaille. La pression, la difficulté que ça peut représenter dans les choix et dans le jugement que les gens vont avoir sur toi, qui peut être même violent. Le bon côté de la médaille, c'est la gloire quand ça marche. C'est également, d'un point de vue très basique, un salaire extrêmement confortable, après lequel énormément de gens courraient très volontiers.
Tu gagnes mieux ta vie en tant qu'entraîneur que sélectionneur.
Oui, non, mais on parle de sélectionneur, je parle pas d'entraîneur. Moi, je parle de sélectionneur, parce que ça représente.
Après, c'est relatif
parce
à notre métier, ça que je veux
dire. Sélectionneur national, donc tu impliques tout un pays derrière toi. Donc tu as la durée de ton contrat un très bon salaire qui occasionne donc très logiquement beaucoup de pression comme un énorme
un chef d'entreprise
là à la limite c'est presque plus comme un ministre on pourrait dire puisque c'est une délégation de service public et d'ailleurs c'est bien plus payé qu'un ministre pour le coup donc il y a ça et après pour le coup de ça se joue à ça non là je suis pas d'accord parce que le sélectionneur comme l'entraîneur d'abord Deschamps a eu énormément de temps pour travailler parce qu'il est en place quand même depuis 2012
oui, c'est vrai.
Que c'est lui qui a décidé parce que c'est son style à lui de pas avoir de style.
Tiens Daniel, faut qu'on y aille. Garde tes cartouches, s'il te plaît. Faut vraiment qu'on file. Parce que c'est l'heure en fait. Faut qu'on y aille. Regarde, l'horloge tourne. Il est 22h57. Vous êtes sur RMC, sur BFM Sport. Daniel poursuit son raisonnement juste après ça, promis.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.